Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. 9h40, démarrage en trombe de l'instant M.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Colombo a pile 50 ans et pour son anniversaire, il mérite mieux que la nostalgie de son éternelle panoplie, un père mastic, cigare mâchouillé, chien improbable et sourcils froncés. Le lieutenant est né à l'écran le 20 février 1968, année politique. Même à la télévision américaine, songez un peu, Colombo, l'archétype du prolo. Face à lui, le suspect chic et éduqué, drapé dans son arrogance, toujours issu de la haute société californienne. Si violence il y a dans cette comédie policière, elle réside uniquement en cet affrontement social, en cette lutte des classes symboliques, qui en dit long, à mon avis, plus long qu'on ne le croit, sur les rapports qu'entretiennent les Américains à la culpabilité et à l'argent.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Séverine Barthes.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à la Sorbonne Nouvelle, vous êtes membre du CEISM, alors le CEISM c'est le nom de votre labo, Centre d'études des images et des sons médiatiques. Vous partagez votre temps entre la France et San Francisco, puis vous avez consacré une thèse universitaire. Vous deviez pas être très nombreux à l'époque quand vous avez proposé votre sujet, parce que c'était sur la rhétorique des grandes séries américaines en prime time. Donc voilà, le milieu universitaire s'ouvre à cette matière télévisuelle qui devient un sujet d'étude à part entière. Au téléphone, dans un instant, nous rejoindra Lilian Mathieu. Lui, il est sociologue, enseignant à l'École normale supérieure de Lyon. Il a publié aux éditions textuelles Colombo, la lutte des classes ce soir à la télé, ou comment décrypter Colombo par le prisme de Bourdieu, Durkheim, Marcel Mauss et autres piliers des sciences sociales. Ça tient en 130 pages et c'est absolument réjouissant. Et puis Romain Nigita est là. Salut Romain.
Bonjour Sonia.
Les 50 ans de Colombo, comme si vous alliez y résister.
Permettez-moi de me présenter, lieutenant Colombo.
Alors Romain, le lieutenant a été imaginé par Richard Levinson et William Link, un duo de scénaristes qui créera aussi la série Arabesque.
C'est eux.
Arabesque,
c'est
mais
leur
oui.
Faute.
Mais au départ, le personnage ne s'appelle même pas Colombo. D'ailleurs, il n'est même pas le héros, seulement une figure secondaire dans une nouvelle littéraire que les deux auteurs publient en 1960.
Et cette nouvelle sera adaptée à la télévision la même année, mais ça sera sans Lendemain et sans Peter Falk. Mm-hmm. Il faudra attendre que Levinson et Link l'adaptent également sous forme de pièce de théâtre pour que le lieutenant obtienne son nom définitif. Cette pièce sera un succès et elle donnera le jour à une deuxième adaptation télé de cette même histoire. C'est en février 1968 sur la chaîne NBC. C'est pour cette occasion que Peter Falk décroche enfin le rôle du flic à l'imperméable.
C'est-à-dire que lui, il n'était pas sur scène au théâtre.
Il n'était ni dans le premier téléfilm, ni
voilà.
Au théâtre. C'est pour ce téléfilm diffusé il y a pile 50 ans, le 20 février 1968, qu'on le découvre. Et la recette est déjà là, il y a 50 ans. Les téléspectateurs connaissent dès le départ l'identité du meurtrier et Colombo passe pour un flic inoffensif face à un criminel qui se croit tiré d'affaire.
Je suis un flic.
Ah, vous êtes un flic? Et moi je suis Cassius Clay.
Ah, c'est bien ça.
Hey, il dit qu'il est flic.
Mais c'est ça, oui.
Ouais.
Ouais, et ça fait 22 ans que je suis dans la police.
Ça fait 22 ans qu'il est flic.
22 ans déjà.
Ouais, ouais.
Les Américains vont devoir attendre encore 3 ans avant de voir revenir ce flic improbable dans un deuxième téléfilm diffusé en mars 1971.
Et c'est finalement en septembre de la même année que la série est enfin lancée, toujours sur NBC. Le premier épisode de la série est signé par un certain Steven Spielberg.
Génial comme histoire, moi j'ignorais complètement.
Il est tout jeune, il a 24 ans, il réalise déjà beaucoup d'épisodes de séries pour le studio Universal. Et au scénario, on trouve Steven Bochco qui deviendra lui le roi de la télévision américaine dans les années 80 et 90 avec des séries comme La Loi de Los Angeles et New York Police Blues. Mais Colombo ne comptera jamais 25 épisodes par saison comme une série classique. Il en aura seulement 7 à 8 par année, diffusées en alternance avec d'autres séries qui, elles, sont complètement oubliées. C'est dans une case qui s'appelle le NBC Mystery Movie. Et en tout, lorsque la série s'arrête en 1978, il n'y aura eu que 45 téléfilms seulement qui se déroulent tous dans la bonne société californienne, avec à la clé une mise en abîme récurrente du milieu de la télévision elle-même.
Non, c'était dans quoi vous avez joué, monsieur?
Dans une série télévisée, Ma Sorcière.
Ma Sorcière Bien-Aimée,
et voilà.
C'est ça. Et vous étiez très bien, monsieur.
Merci.
Dites, ça passait quel jour?
Non, ça passait le jeudi.
C'est ça, c'est la télé qui raconte la télé. Après 1978, il y a eu des suites, Romain. Madame Colombo est devenue aussi célèbre que son lieutenant de mari.
Ravi de vous rencontrer.
Mais c'est moi qui suis ravi de vous rencontrer, madame.
Merci.
C'est ma femme qui va pas en revenir.
Sa femme, Madame Colombo, c'est lui qui en parle, mais on ne l'aperçoit jamais en 45 épisodes. Hérésie, en 1979, NBC lui consacre pourtant une série à part entière, mal écrite et mal pensée, et ça ne durera qu'une seule saison.
C'est bien fait. Quant à Columbo, il a fini par reprendre du service.
Oh, excusez-moi, une dernière petite question.
Au bout de 10 ans, Peter Falk s'est laissé convaincre et il accepte de tourner 24 enquêtes supplémentaires à partir de 1989. L'inspecteur a changé de chaîne, il est désormais sur ABC, mais la formule demeure intacte. Falk s'est imposé comme coproducteur et il écrit même un superbe épisode qui met en scène Faye Dunaway. Il raccrochera définitivement en 2003 et malheureusement, il est décédé en 2011.
Donc cette suite, elle a été à la hauteur finalement des premiers épisodes. C'est pas une vague ressucée qui avait perdu en qualité.
Ah, c'est le même succès, même formule et même qualité en effet. Il y a de très bons épisodes dans cette deuxième période.
Voilà, et puis on ne vous l'a pas dit, mais alors Columbo a été au long de toute sa carrière couvert de prix aux États-Unis et notamment avec des Emmy Awards.
4 Emmy Awards du meilleur acteur pour Peter Falk et il y a eu un Emmy Award de la meilleure série tout de même.
Alors comment ça s'est passé en France, Romain, puisque Columbo apparaît dès 1972 sur la première chaîne de l'ORTF.
Puis la série reste sur TF1 puisque la chaîne est baptisée TF1 quelques années plus tard. Et dans les années 90, alors que les chaînes françaises ne diffusent quasiment plus aucune série américaine en prime time, Columbo, avec son format d'une heure et demie, permet toujours à TF1 de programmer la série à 20h30 comme un film de cinéma. Et c'est suivi par près de 10 millions de téléspectateurs. C'était énorme à l'époque. Même stratégie aujourd'hui, Columbo est diffusé tous les samedis en prime time sur TMC. La série rassemble encore entre 600 000 et 1 million de téléspectateurs.
Non mais c'est ça qui est énorme en fait, parce que 10 millions dans les années 90, why not ? Mais alors 1 million aujourd'hui sur TMC pour Columbo, diffusé, rediffusé depuis 50 ans, c'est absolument incroyable.
En prime le samedi soir. Et si vous n'en avez toujours pas assez, c'est aussi diffusé le mardi et le mercredi soir sur TV Braise, et c'est encore une chaîne du groupe TF1.
Samedi soir encore, avec ma femme, on a regardé une cassette d'un de ses films.
Et ça se diffuse tellement bien que les créateurs de la série et leurs héritiers ont intenté un procès au studio Universal. Ils réclament encore aujourd'hui plusieurs millions de dollars de droits d'auteur. La plainte a été jugée recevable et devrait prochainement être instruite.
Voilà, décidément, les histoires d'héritage, c'est à la mode. Merci Romain.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Au téléphone avec nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, Lilian Mathieu. Bonjour Lilian Mathieu.
Bonjour.
Bonjour et merci de nous rejoindre puisque je sais que on vous arrache à votre matinée d'enseignement et de conférence. Donc je rappelle la construction narrative de Columbo. L'épisode s'ouvre sur la réalisation d'un meurtre. Donc nous savons, nous téléspectateurs, d'emblée qui tue et pourquoi. Arrivée de l'inspecteur, puis confrontation entre le lieutenant et son suspect. La haute société californienne, avec son mépris, son arrogance, les assassins sont toujours des dominants, riches, célèbres, puissants, séduisants, élégants. Moderne.
Oh là là, oh.
Ça ne va pas ?
Oh là, j'ai de rebut sans me rendre compte. C'est quoi votre vin ?
C'est du Cabernet Sauvignon.
Je ne bois jamais ce que je ne connais pas et je me suis laissé surprendre. Et vous en avez plein ? Ah, parce que j'aime pas gaspiller.
Excusez-moi, lieutenant, soyez sans offense. Vous êtes un garçon sympathique, je vous aime beaucoup, mais je ne voudrais surtout pas dépendre de vous si j'avais à régler une affaire urgente.
Eh ben, c'est ce que ma femme dit. Elle dit.
Oh, ça, je me doute de ce qu'elle dit, oui. Tenez, et venons-en au fait.
Oui, oui, j'avais remarqué, mais où peut-on avoir l'appareil ?
Ah, chez mon tailleur, Chadwick's, Beverly Hills. Pourquoi vous songeriez à renouveler votre garde-robe ?
Oh non, non. Remarquez, de temps en temps, je m'achète un imperméable, mais il n'y a pas urgence. Celui que j'ai peut encore faire l'affaire. Vous n'allez pas me croire, mais. La première chose que j'ai faite ce matin en quittant votre permanence, ça a été de courir chez votre tailleur.
Je suis prêt à parier qu'il a été enchanté. Il aime la difficulté.
Lilian Mathieu, ce qui est passionnant dans votre étude, hein, je l'ai dit, parue chez Textuel, intitulée « La lutte des classes ce soir à la télé », c'est que vous montrez très bien comment Columbo, finalement, c'est un Américain moyen, un individu limité en tout, qui au départ sera en position d'infériorité permanente. Et en même temps, chez Columbo, il n'y a pas, on va dire, de malveillance vis-à-vis des riches. Ce n'est pas un personnage politisé, Columbo lui-même.
Non, c'est quelqu'un qui souvent exprime de l'admiration pour les gens de la haute société californienne auxquels il est confronté dans ses enquêtes. Il est admiratif devant le luxe de leur demeure, devant leur culture. C'est souvent des gens qui sont extrêmement cultivés, qui ont des collections d'art, qui maîtrisent tout un ensemble de codes culturels qui sont étrangers au lieutenant, mais qui font son admiration. Simplement, il est aussi quelqu'un qui fait sérieusement son métier de policier, et donc il est parfois désolé hein, à la fin de l'enquête lorsqu'il confond ses meurtriers, mais voilà, il est là pour incarner aussi une forme de justice, pour condamner, arrêter les assassins une fois qu'ils ont été identifiés. Mais ça se fait, c'est une série qui est, c'est aussi une des clés de son succès, qui est très pacifique, il y a très peu de violence. Les meurtres sont toujours en hors champ. Et ça se fait de manière, les enquêtes se mènent de manière très civilisée, je dirais.
Mais Lilian Mathieu, quand vous dites il est là pour incarner une forme de justice, alors il y a évidemment la justice judiciaire, mais il y a une forme de justice sociale. C'est-à-dire que finalement, il va y avoir un renversement au cours de l'épisode et que ça va être vécu comme cette revanche de classe, comme une jubilation pour le téléspectateur.
Alors oui, ça c'est plus du côté du téléspectateur qui voit ce pauvre lieutenant se faire quand même maltraiter, très souvent humilier. L'extrait que vous venez de diffuser, il est quand même assez significatif. Les gens le prennent de haut, ils sont souvent extrêmement arrogants, extrêmement condescendants à son égard, et il a l'air complètement démuni, désemparé, ce pauvre policier qui n'a pas ses codes culturels, qui n'a pas le même train de vie, et c'est tout le ressort de l'intrigue d'un épisode de Columbo, c'est comment un policier qui a l'air quand même mal équipé pour confondre un assassin qui a quasiment réalisé le crime parfait, malgré tout va parvenir à le démasquer. Et il y a effectivement une revanche de classe, c'est-à-dire que le dominé finalement arrive à triompher du dominant, qui est un dominant quand même souvent antipathique du fait justement de cette arrogance, de cette condescendance.
Alors Lilian Mathieu, je vous propose d'écouter un autre extrait où on va voir que justement la domination ne s'instaure pas que par la richesse, mais également par des codes culturels comme vous le disiez.
Quand vous regardez un tableau ou une sculpture, ou vous vibrez ou vous ne vibrez pas, c'est tout.
Ah, alors là, voyez-vous, je vais vous avouer quelque chose, je ne vibre pas. Et ça? Je vois pas très bien le titre.
Ça?
Oui.
Ah, ça, c'est le conduit de ventilation de l'air conditionné.
Oh, je suis confus.
Non, je vous en prie.
Vous le direz à personne.
Non, ne craignez rien. Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes plutôt ce qu'on appelle un traditionaliste. Alors, si vous voulez me suivre, je vais vous montrer quelques paysages et couchers de soleil.
Oui, alors là, je vais vous faire un aveu, madame. Les paysages et des couchers de soleil, il y en a chez moi des dizaines pour la simple et bonne raison que ma femme les peint elle-même.
Voilà, Lilian Mathieu, voilà qui illustre très bien cette lecture bourdieusienne hein, que vous proposez de la série Columbo, c'est-à-dire tout ce qui est dans le registre symbolique et dans l'appropriation culturelle. Là, Columbo ne comprend rien à l'art contemporain.
Ah, très clairement, hein, c'est un des épisodes une des scènes les plus savoureuses, c'est-à-dire que il ne comprend absolument pas la logique de l'art contemporain et il confond un équipement de la galerie avec une sculpture de manière très significative, ce qui est son univers culturel, c'est ce que les gens extrêmement cultivés considéreraient comme extrêmement médiocre, sans intérêt, comme plat, c'est figuratif, c'est des couchers de soleil, c'est du kitsch. Et donc il atteste à ses dépens hein, de toute son inculture dans cette scène.
Alors Lilian Mathieu, justement, quelle vision Columbo, enfin la série Columbo, donne-t-elle des riches? Parce que c'est ce que vous montrez également très bien dans votre livre. L'argent et la position sociale, finalement, reposent sur une forme d'illégitimité. Il y a toujours quelque chose qui revient du passé et il y a toujours derrière une forme de culpabilité et de faute morale qui est liée à l'argent et à la réussite sociale.
Alors oui, d'une part, le riche, c'est toujours l'assassin donc dans cette série. Donc il est toujours du côté du mal. C'est lui qu'il faut confondre, même s'il y a quelques épisodes qui sont un petit peu en décalage avec des assassins qui sont notamment des femmes qui peuvent avoir de bonnes raisons légitimes d'avoir commis un crime. Néanmoins, ce qui revient souvent, c'est que l'assassin se débarrasse d'une personne qui vient de son passé, qui essaye par exemple de le faire chanter parce que à l'origine de sa réussite, il y a une escroquerie, il y a une malveillance, il y a quelque chose qui fait que sa réussite personnelle est en fait illégitime. Il s'est approprié l'invention de quelqu'un d'autre, par exemple, où il a éliminé un partenaire pour tirer tout le bénéfice de leur invention, de leur initiative commune qui ont assuré sa réussite. Et cette illégitimité du passé revient Il s'agit de conjurer quelque chose qui risque de détruire totalement la réputation, la richesse, et c'est ce qui conduit le personnage dominant à commettre un crime. Ou ça peut être une relation adultère, hein, quelqu'un qui a fait un très beau mariage avec une femme riche, qui a une maîtresse, cette maîtresse exige qu'il divorce, il s'en débarrasse, parce que ce qui est le plus important pour lui, c'est de conserver sa richesse et le mariage qui en est la condition.
C'est ça, merci. Donc, oui, c'est toujours... ça, c'est... Oui.
Non, je dirais que c'est un peu une critique interne à la société américaine de l'idée du self-made man, de celui qui a réussi par son propre talent individuel. Ben, en fait, très souvent, non, c'est une figure qui est contestée parce que il n'a pas réussi tout seul. Il avait un partenaire qui l'a éliminé.
C'est ça, le mythe est sérieusement écorné dans la série Columbo, et ça, c'est quand même une première dans l'histoire de la télévision américaine. Et je me retourne vers votre consoeur également universitaire, Séverine Barthes. Quelle vision, justement, se dégage de l'argent lié comme ça à une faute morale et à une culpabilité dans Columbo, Séverine Barthes?
Bah, ça vient d'une... Ça répond, je pense aussi, à des représentations qui circulent dans la société et dans les autres fictions, où, quelque part, me semble-t-il, jusqu'à une période relativement récente de la télévision, le riche dans les séries télévisées est moins méchant qu'il n'est corrompu, en fait, à la fois financièrement, si je puis dire, et moralement.
Et moralement, c'est ça.
Étymologiquement, le corrompu, c'est celui qui détruit, qui détériore ou qui est touché par cette détérioration, et on pourrait dire qu'en quelque sorte, le riche, pendant très longtemps à la télévision américaine, c'est celui qui à la fois met en danger l'ordre social et celui chez qui est altérée l'intégrité de la conscience, et les deux marchent ensemble.
C'est ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on s'est rendu compte que par exemple La Petite Maison dans la Prairie est née en 1974, donc juste 3 ans après le début de la série Columbo, et dans La Petite Maison dans la Prairie, il y a les Olson, il y a ces commerçants qui se sont enrichis, et on sent bien que eux, ils vont à l'envers des valeurs pionnières chères aux premiers Américains.
Alors, je crois que c'est un peu plus subtil parce qu'en fait, c'est le couple. Et dans le couple, il n'y a pas tout à fait le même positionnement. C'est-à-dire qu'il y a Harriet Olson, dont le magasin, en fait, est le fait de. Enfin, c'est un héritage qu'elle a touché, qu'elle fait fructifier. Donc, il y a quelque chose qui est dit aussi de l'héritage et de la transmission, etc., qui peut être contraire un peu à ces pionniers qui viennent conquérir quelque chose et non pas l'hériter.
C'est ça.
Mais de l'autre côté, Nils Olson, lui, représente plutôt une image généreuse de celui qui possède.
Alors, 1960. Naissance du lieutenant Columbo, ça s'arrête en 78, ça s'arrête juste avant Reagan. Est-ce que, à vos yeux, justement, dans la télévision américaine, dans la série américaine, il y a là aussi un basculement ?
Alors oui, mais qui apparaît un peu plus tard, parce qu'il y a toujours ces effets d'impact qui mettent du temps. J'ai l'impression quand même que jusqu'à la moitié à peu près de la période Reagan, on a quelque chose d'assez dichotomique entre le riche qui est soit bon, généreux, qui est intègre et qui va participer à la cohésion de l'ordre social.
Ouais.
Ça peut être Nils Olson, mais c'est aussi Monsieur Drummond dans Arnold et Willy.
Dans Arnold et Willy, bien sûr.
Plus près de nous, Harold Finch dans Person of Interest, si on essaye de rapprocher plus près de nous. Et puis de l'autre côté, le méchant qui est mauvais, qui participe au désordre social, qui est corrompu, c'est d'une certaine manière Harriet Olson, mais c'est aussi surtout J.R.
Oui, parce que Dallas, c'est 78. C'est-à-dire, Columbo s'éteint, J.R. naît, en quelque
sorte.
Voilà,
donc Dallas, J.R., on a vraiment ça. Et puis, si on veut prendre un exemple plus contemporain, peut-être Bobby Axelrod dans Billions, qui reprend un peu ces principes-là. Et au milieu de...
Alors, Billions, c'est une sorte de grande saga de scandale juridico-financier, on va dire.
C'est ça, rapidement.
Chez les milliardaires.
Et quelque part, au milieu de ça, moi, je trouve qu'on a quelque chose d'assez frappant avec Madame et Servie. Madame et Servie, c'est une sorte de riche qui s'assume comme riche, qui n'est ni bonne ni mauvaise.
Alors c'est Angela Bauer.
Angela Bauer, qui n'a aucune culpabilité. Elle travaille, elle est riche. Mm-hmm. Elle n'est pas jugée par la série. Et c'est presque une série pro-Reagan.
C'est une femme seule.
Voilà.
Et elle prend à son service, pour s'occuper notamment de sa fille et de sa maison.
De son fils.
De son fils et un garçon, je ne me souviens plus.
Tony Micheli, un homme qui lui est veuf et qui, pour donner un meilleur avenir à sa fille, ne va pas se reposer sur le welfare state, mais va chercher un travail ailleurs. Il part de Brooklyn, il va dans le Connecticut. Et quelque part, part, on peut voir dans le sous-texte quelque chose de l'ordre de l'argent d'Angela est mieux dans la poche de son employé que dans les impôts. Ouais. Et quelque part, ça c'est très réganien.
C'est très réganien. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Lilian Mathieu. On vous laisse à vos étudiants Romain Nigita, Séverine Barthes. 50 ans, Colombo. Bon anniversaire, lieutenant. C'est la fin de l'Instant M.